France Inter. .fr. France Inter. Marc Fauvel. Le 6-9 de l'été.
Difficile, voire impossible de s'y retrouver ces derniers jours entre les promesses de baisse d'impôts, les changements de calendrier. On a encore du mal à comprendre en quoi la feuille d'impôts des Français sera faite pendant le quinquennat. À quoi ressemblera le macronisme fiscal, pour employer cette expression? C'est la question qu'on va poser à nos deux invités ce matin. Bonjour Mathieu Plane.
Bonjour.
Économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, ancien conseiller d'Arnaud Montebourg lors de la primaire et lorsqu'il était ministre. Ministre, face à vous, Jean-Marc Daniel, bonjour.
Bonjour.
Économiste, vous aussi, vous êtes professeur associé à l'École supérieure de commerce de Paris. Votre dernier livre, Impôts, histoire d'une folie française, 60 ans de matraquage fiscal, est paru chez Talendier. Ça fait 2 mois qu'Emmanuel Macron est à l'Élysée. Est-ce qu'on peut déjà définir le macronisme fiscal ou est-ce que pour l'instant, Mathieu Plane, c'est un objet encore non identifié?
Alors, on peut considérer qu'effectivement, ça reste encore un objet non identifié, même si, sur les mesures, en tout cas, qui ont été dans son programme, un certain nombre ont été annoncées. Alors, on ne connaît pas la vitesse et la montée en charge de ces mesures, mais globalement, on a quand même le package fiscal qui est attendu pour le quinquennat. Alors, est-ce qu'il va aller au bout de ces mesures? Mais on voit bien que si on doit faire rapidement juste une petite liste, on voit clairement qu'il y a l'espèce, on va dire, qui qualifie Emmanuel Macron, c'est le côté en même temps et essayer de satisfaire un peu toutes les classes sociales de la population d'un point de vue fiscal. Hein. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'effectivement les plus riches sont plutôt bien lotis avec la baisse de la fiscalité du capital et notamment la réforme de l'ISF. Mais on a aussi une baisse de la taxe d'habitation qui est conséquente, qui est pour 10 milliards. Mais à côté de ça, on a la revalorisation par exemple de la prime d'activité. Donc on a finalement un package assez intéressant, mais le en même temps pose aussi un problème, c'est qu'on parle pas des choses qui fâchent, quoi. Et les choses qui fâchent, c'est le financement, parce que dans le en même temps, il y a aussi le fait de respecter les engagements budgétaires vis-à-vis de Bruxelles, faire des ajustements budgétaires, et ça, il faut trouver de l'argent. Et donc, on parle moins, effectivement, des hausses de fiscalité écologique, la fiscalité du tabac, ou alors, et le gros package dont on doit clarifier, c'est la réduction de la dépense publique de 60 milliards, qui peut pas se faire de façon comme ça, juste en réduisant le saupoudrage, il faudra aller quand même trancher dans le fond. Et donc, là-dessus, on n'a pas encore beaucoup d'éléments.
Jean-Marc Daniel, la ligne directrice, s'il y en a une, quelle est-elle?
Oui, je pense qu'il y a une ligne directrice telle qu'elle avait été définie par Emmanuel Macron quand il était ministre. Le problème, c'est est-ce qu'il va être en tant que président fidèle à cette ligne qui était une ligne d'un personnage un peu à la marge du système et donc qui lui permettait d'avoir des audaces. C'est-à-dire que, notamment quand il avait été à l'université d'été du MEDEF en 2015, il avait bien indiqué que lui, son souci dans la fiscalité, c'était que cette fiscalité soit porteuse de croissance et que effectivement, il allait y avoir des gens qui perdraient. Il y a toujours dans des réformes fiscales des gens qui gagnent et des gens qui perdent. Et même si on ne finance pas, si on fait du déficit en regard de baisse d'impôts, il y a toujours quelqu'un qui paie à la fin. C'est la génération d'après qui paie. Donc, il y avait un choix à faire dans les gens qui allaient bénéficier des réformes et des gens qui allaient subir les conséquences de ces réformes. Et clairement, il avait fait le choix d'un côté des entreprises, et ça c'était, et des détenteurs du capital, et des gens qui investissent, et ça c'était la réforme de l'ISF, et c'était la réforme de la taxation du revenu du capital. Et puis dans le monde du travail, c'était de choisir les gens qui sont plutôt sur le secteur en concurrence, et de taxer les gens qui sont dans des secteurs abrités. Donc c'était le passage des cotisations assurance maladie et assurance chômage, sous forme d'augmentation de la CSG, qui frappe les retraités, et les fonctionnaires. Le bilan, pour l'instant, et là je rejoins ce que dit Mathieu Plane, c'est que à partir de ses intentions, on a quand même un résultat qui est assez confus, avec quelques vieilles recettes. Vous savez, le président Mitterrand disait que avec Rivoli, qui était l'ancêtre de Bercy, à la fin des fins, ça se terminait toujours par essence, tabac, alcool. Donc on a fait essence et tabac. On attend alcool, c'est moins facile qu'à l'époque de Mitterrand, puisque maintenant l'Europe s'en mêle, mais on attend alcool maintenant.
Alors on va rentrer dans le dur. La réforme, la grande réforme fiscale, celle en tout cas qui approche, c'est la hausse de la CSG au 1er janvier prochain. Elle va augmenter d'1,7%. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise, sur les salaires, sur les pensions de retraite et sur les revenus du capital. C'est donc de l'argent en moins à la fin du mois. Mais dans le même temps, cette hausse de la CSG sera compensée pour certains Français par la suppression des cotisations chômage et maladie. Je viens de perdre Hélène Jouan à la table. Non, vous êtes toujours avec moi.
Je comprends.
Hélène, suppression. Non, j'avais l'impression que vous leviez les yeux. Suppression des cotisations chômage et maladie pour récupérer un peu plus de 3%. Expliquez-moi, Mathieu Plane, l'intérêt de la manip, à quoi ça sert de prendre pour redonner?
Alors, on crée des transferts en fait entre catégories actifs, retraités, chômeurs, détenteurs du capital. Globalement, l'idée qui est derrière ça, c'est de redonner du pouvoir d'achat aux salariés. Le problème que ça pose, c'est que effectivement, c'est plutôt les retraités qui vont payer. Alors, je crois que c'est les retraités au-delà de 1 200 euros. Hein, c'est ce qui était dans ce qui a été annoncé. Et donc, on crée un transfert assez important.
Parce qu'eux, on ne leur supprime pas les cotisations.
Il y a aussi l'histoire quand même des indépendants et des fonctionnaires qui n'est pas totalement réglée. Est-ce qu'ils auront le même gain de pouvoir d'achat? A priori non, parce que la mesure, elle doit être budgétairement neutre. C'est-à-dire qu'elle doit coûter zéro aux finances publiques. Si vous donnez le même gain de pouvoir d'achat aux fonctionnaires et aux indépendants que ce que doivent avoir les salariés, là, pour le coup, le coût budgétaire serait relativement élevé. Et puis, dernier point, et ça, je pense que ça n'a pas été assez souligné, c'est qu'on va taxer plus le capital. Sauf que en même temps, justement, on va mettre un plafonnement forfaitaire unique à 30%. C'est-à-dire que, normalement, les plus riches vont pas payer plus de CSG parce que on va plafonner, justement, l'imposition du capital. Donc, on voit quand même qu'il y a un certain nombre de choses à clarifier et que même si les salariés vont être gagnants, on voit que surtout, les perdants sont les retraités qui gagnent qui ont une pension supérieure à 1 200 euros par mois.
Il y a des Français qui vont morfler, dit le patron de Force Ouvrière, Jean-Claude Mailly. Et il a raison, Jean-Marc Daniel?
Ah oui, il y a des gens qui vont morfler. Il y a des gens qui vont voir effectivement une amputation de leurs revenus. Encore une fois, le retraité qui fume et qui a un véhicule pour au diesel pour aller faire ses courses, lui, il va morfler un maximum. Ce qui est intéressant, encore une fois, dans cette logique de qui va morfler et qui ne va pas morfler, c'est que si on favorisait les gens du secteur privé, les salariés du secteur privé, c'est-à-dire c'était une sorte de compensation sous forme de pouvoir d'achat de ce qu'on va leur réclamer en termes de baisse de leurs droits sur le code du travail. Il y avait une espèce de logique intellectuelle disant ils sont soumis à la pression concurrentielle, à la pression internationale, on est obligé d'abaisser le coût du travail, de leur faire perdre une partie de leurs droits en termes de réforme du code du travail, et on va compenser ça en leur donnant des revenus supplémentaires qu'on va prendre sur les gens qui, eux, ne subissent pas les conséquences de la réforme du code du travail. Donc c'était assez logique sur le plan intellectuel. Après, dans la réalisation, on arrive là aussi à des bricolages, à une forme de démagogie, parce qu'on nous dit qu'on va retarder le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu pour que les salariés du secteur privé voient bien qu'ils ont été bénéficiaires des mesures qui sont prises. Il faut leur montrer, il faut insister là-dessus. Donc il y a une opération de communication qui se branche, qui s'associe à une opération qui était intellectuellement assez construite.
Mathieu Plane.
Oui, alors on voit bien qu'il y a un certain nombre de transferts qui, justement, il va falloir clarifier. D'ailleurs, on fait une évaluation à l'OFCE qui sera présentée demain sur le cadrage général, justement, des réformes à attendre sur le quinquennat à venir. Mais ce qui est quand même important, c'est effectivement de savoir qui seront les gagnants et les perdants de ces réformes. Alors, il y a quand même d'abord, globalement, on n'est pas du tout dans le même contexte qu'en 2012, hein, parce qu'on n'aura pas le choc fiscal qu'avait entamé d'abord Nicolas Sarkozy, puis François Hollande. Globalement, les prélèvements vont baisser. Par contre, on va avoir des effets redistributifs très forts. C'est qu'on va avoir certainement beaucoup de gagnants, plutôt en haut des revenus, un peu au milieu parce qu'on a quand même la baisse de taxe d'habitation. La question, c'est une fois qu'on intègre le financement, et notamment la réduction de dépenses publiques, qu'est-ce qui se passe pour justement ces impacts de redistribution, et est-ce que justement on n'a pas un risque d'augmentation des inégalités?
On a parlé de ce qui est dans le projet d'Emmanuel Macron. Il y a un point qui, à ma connaissance, n'y est pas, c'est la réforme de l'impôt sur le revenu, qui est souvent présenté pourtant comme l'impôt le plus juste, en tout cas le plus progressif. Est-ce qu'il a tort, Emmanuel Macron, de se priver de ce levier-là, Jean-Marc Daniel?
C'est-à-dire qu'on est arrivé à l'impôt sur le revenu à énormément de réformes, ça a bougé en permanence. Effectivement,
quand chaque nouveau président revoit les barèmes, les tranches, les taux.
Et quand on regarde les redistributions qui sont faites par les politiques publiques, on s'aperçoit que les deux tiers, c'est des redistributions sous forme de prestations qui sont fournies aux particuliers, et le tiers restant de la redistribution repose essentiellement sur l'impôt sur le revenu. Tout le système d'État-providence est assez peu redistributif en France. Mais on arrive dans une situation où, là aussi, Emmanuel Macron avait tenu un discours sur lequel, certes, il y a un enjeu d'inégalité, mais l'enjeu d'inégalité reporte sur la redistribution, et repose sur la redistribution qui, elle-même, repose sur la croissance. Et là aussi, son discours a toujours été « je veux davantage favoriser la croissance pour avoir quelque chose à redistribuer plutôt que de m'obséder immédiatement sur la redistribution ».
D'un mot, Mathieu Blanc.
Oui, juste un mot. Non, il y a une réforme en fait, hein, quelque part, de l'impôt sur le revenu, on n'en parle pas, mais c'est avant, enfin d'ailleurs, c'est là où il est vraiment pas du tout sur la ligne de François Hollande. C'est-à-dire que François Hollande a dit « on va taxer de la même façon les revenus du capital et du travail ». C'est-à-dire qu'on va barémiser ces types de revenus. Or, aujourd'hui, on revient là-dessus et on baisse même le plafond parce qu'on le passe à 30%, y compris prélèvements sociaux. C'est-à-dire que ça devient forfaitaire pour les revenus du capital mobilier. Et donc, on n'est pas dans la logique de taxation équivalente entre revenus du travail et du capital.
Mathieu Plane, Jean-Marc Daniel, on poursuit ce débat jusqu'à 9h avec les questions des auditeurs. Ce sera juste après la revue de presse. Il est 8h31.